is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada.
Galère, galère. Bonjour pour notre émission du mercredi 26 mai. Aujourd'hui, Dominique et Françoise pour relayer Odile qui fait une petite pause dans ses lectures. Nous vous proposons pour aujourd'hui un des grands auteurs de la Caraïbe, auteur anglophone, Earl Lovelace, avec son roman « C'est juste un film », paru en France aux éditions Le Temps des Cerises en 2017, après une parution en anglais en 2011. Et en français, au temps des cerises, il est traduit par Alexis Bernot et Thomas Chaumont. Du même auteur, Earl Lovelace, vous aviez peut-être lu aux environs de l'an 2000 « La danse du dragon » qui se déroule au cœur du carnaval de Trinidad. Et en effet, avec « C'est juste un film », nous sommes de nouveau à Port of Spain, port d'Espagne, la capitale de Trinité et Tobago, qu'on appelle plus souvent de son nom colonial espagnol Trinidad. L'île de Trinidad est la plus méridionale des Antilles, tout près des côtes du Venezuela, et elle est une image type des Antilles avec ses métissages ethniques, ses mélanges de langues, ses combats perpétuels pour la liberté, contre le racisme, contre le capitalisme sauvage qui exploite son pétrole et son gaz naturel. Le héros de C'est juste un film, King Kala, est un compositeur, improvisateur, danseur de calypso, le caiso, la musique phare de Trinidad. Écoutons-le.
Mon nom est King Kala, artisan de la confusion, greffier de ragots, démolisseur de réputation, révélateur de secrets. Je suis sous la même peau vilain et héros, victime et victorieux. Je suis un caïssonien, un vrai de vrai. Je réduis les puissants par le ridicule. Je leur révèle leurs absurdités par la parodie. Je réduis leur signification à néant et donne du sens au sens. Je danse le bongo sur les tombes des potentats, mais je suis né une seconde fois par la grâce d'un lapsus. Une nuit, sous le chapiteau de Caïso, comme je me prépare à chanter ma chanson, pour le plus grand profit des étrangers, du public, le maître de cérémonie va me présenter. Il va faire son annonce avec un accent américain. Il dit « Mesdames et messieurs, voici la chanson que vous attendez et voici votre chanteur King Kala. » Et voilà que dans l'intervalle, ou devrais-je dire l'intervallable de la mauvaise prononciation langue fourchée de King Kala par ce bonhomme de Trinité qui voulait sonner ricain, prononçant King à la place de Kang, je renaissais à de nouvelles perspectives. C'était au mi-temps de cette période de soulèvement que nous appelions Black Power. Je ne me souviens plus vraiment quelle chanson j'allais chanter, à quel gros bonnet j'allais régler son compte, le business de qui j'allais dénoncer, mais cette nuit, inspiré par l'erreur du maître de cérémonie sur mon nom, un rôle d'une toute autre ampleur me tomba dessus. Fini les railleries, terminé les sous-entendus. Je tombe la veste et je retrousse mes manches. J'allais devenir greffier de l'histoire des gens, chanteur de leurs louanges, restaurateur de leur foi, gardien de leur vexation, embaumeur de leur colère. Je devins le poète de la révolution. Et puis, l'état d'urgence fut déclaré. Les héros se rendirent triomphalement et ils disparurent. Certains passèrent à la religion, d'autres rentrèrent fissa dans leur syndicat ou prirent l'avion pour retourner en Afrique. Certains mirent les voiles en direction de la politique électoraliste. Un autre ramassa un morceau de craie et, avec le bitume comme tableau noir, s'improvisa professeur à l'université de Woodford Square. Mais nous n'étions plus en vedette, le spectacle était terminé. J'ai regardé autour de moi pour constater que ceux qui avaient rêvé avec moi fulminaient tous en lieu sûr. Ils ont reconstruit les pyramides, réérigé Hanouman, ils ont écarté les océans et colmaté le passage du milieu, histoire d'être bien sûr qu'on n'entende plus parler de cette histoire de commerce triangulaire.
Vous avez compris, avec King Kala, et c'est juste un film, nous entrons dans un roman-poème, comme ceux de Jacques Roumain, d'Édouard Glissant ou de Patrick Chamoiseau, comme ceux des jeunes auteurs haïtiens que nous avions lus à l'automne, un roman, ou plutôt une fresque sociale, lyrique, une mosaïque de personnages, un assemblage politique, poétique et réaliste à la fois, de scènes de la rue de Port d'Espagne. Avant d'aller à la rencontre de Sonny Boy, de Dorlène, de Rouplal ou de Aguilera, écoutons une autre idole de Trinidad, une autre idole du Caïso, Calypso Rose.
This is Caribbean Vibes.
Le caïso, le calypso de Rose, c'est moins pour les paroles et plus pour la musique. Vous savez, le calypso, c'est la musique de Trinidad. Revenons maintenant à King Kala et à son premier personnage, Sonny Boy.
Quand Sonny Boy Aparicio entendit dire que le gouvernement avait déclaré l'état d'urgence et arrêté les chefs de file des manifestations du Black Power, que notre historien le plus illustre avait baptisé « Révolution de février », son premier instinct fut la fuite. Il troqua son dashiki contre une chemise blanche à manches longues, aplatit le halo de sa chevelure pour le faire entrer sous une casquette bebop, quitta Roof Street où il habitait chez son frère Alvin, quand il était à Port d'Espagne, et se fraya un chemin jusqu'au village endormi en haut du mont Ololo, pour s'y planquer chez Daniel, un camarade indien, là où il était sûr que la police ne viendrait pas le chercher, et pour y guetter l'appel à la résistance qui ne manquerait pas de suivre, comme l'avait annoncé le chef du Black Power, aussi fidèlement que la nuit suit le jour, si le gouvernement oublie Dieu dans ses pensées et essaie de s'opposer à la marche en avant des Noirs. Tout au long de ce jour-là, Sonny Boy écouta la radio donner tous les détails de la capture des chefs, la reddition des chefs, la fuite des chefs, et il passa une nuit sans sommeil sur le lit de camp en toile du salon de Daniel, à se tourmenter de ce que, selon toute vraisemblance, après des mois d'exubérance, la rébellion du Black Power s'achevait en gémissant. Mais quand au matin, il lut dans les journaux de la poésie captivante de la reddition de ses chefs, leurs poings serrés et levés en l'air, leur corps hérissé par l'autorité de leur indignation, les policiers même qui les avaient arrêtés les considérant avec sidération, il devint clair pour Sonny Boy que les frères, ainsi qu'il appelait dorénavant ses hommes, loin de s'être laissés abattre, avaient, comme les danseurs à foufou des bals masqués de Guyane, quitté d'un bond leur position d'humilité pour gagner une plus invincible hauteur. Voulant prendre place à leur côté, Sonny ôta sa casquette bebop, la fourra dans sa poche, rendit au halo de ses cheveux sa plénitude antérieure, prit congé de son camarade à Hololo et retourna en hâte à Roof Street pour y attendre que la police vienne l'arrêter. Mais une fois arrivé à Roof Street, les gars qui se rassemblaient habituellement au coin de la rue avaient fondu comme neige au soleil et les quelques présents ne le connaissaient pas si bien que ça. Comme il ne voulait pas qu'on l'arrête dans une rue où personne ne le connaissait, Sonny Boy prit un taxi jusqu'à la ville de Kaskadoo, où il avait vécu depuis ses 14 ans dans la maison de sa grand-mère et où il était sûr de trouver une foule qui saurait apprécier à sa juste valeur un événement aussi important que son arrestation. À Kaskadoo, les gens qui le virent en public s'inquiétèrent de ce qu'ils croyaient être sa témérité et son bon ami Gilda l'attrapa par le col avec une force excessive qu'il s'attendait à voir excusée parce qu'animée des meilleures intentions. « T'es dingue ou bien ? Les flics recherchent les membres du Black Power. Tu peux me dire, couillon, pourquoi t'es pas en planque ?» Sonny Boy se composa un visage souriant pour annoncer à Gilda et à ceux qui l'accompagnaient « Soyez sans inquiétude, ils peuvent bien me tuer, ils ne tueront pas la révolution. » Ces paroles pleines de courage émurent tant Gilda et sa suite qu'au risque d'être désormais eux-mêmes arrêtés pour rassemblement illicite, l'état d'urgence étant en vigueur, ils le conduisirent dans la cour de la maison de sa grand-mère et firent masse autour de lui dans une atmosphère de jubilation émerveillée et superbe en attendant que la police vienne l'arrêter. Sa grand-mère, dont la fierté qu'elle éprouvait pour lui avait gonflé jusqu'à presque éclater au cours des mois où il avait participé au Black Power, ravie à l'idée qu'il allait être arrêté pour avoir soutenu une cause plus noble que les méfaits personnels qui lui valaient le plus souvent des ennuis, lui fit cuire une marmite de riz et de pois perdrix avec des gombos et du poisson salé séché en quantité suffisante pour nourrir la foule rassemblée dans sa cour pour assister à l'arrestation de Sonny Boy. « Alors, il paraît qu'on me cherche », lança-t-il au seul policier en faction. Et pour ne pas subir la honte de se voir demander qui il était, vu qu'à ces mots, l'agent Stéphane Aguilera, le policier de garde, avait haussé les sourcils en signe de perplexité, il précisa son nom, Sonny Boy Aparicio. Sans un mot, le policier ouvrit devant lui l'énorme registre du poste dont il commença à tourner les pages. Sonny Boy retint son souffle, il n'expliqua que lorsque l'agent Aguilera leva les yeux pour le dévisager.
Donc face à Sonny Boy, le deuxième personnage mis en scène donc par Kinkala, c'est l'agent Aguilera. Et on va voir la vie de l'agent Aguilera.
L'agent Aguilera avait dans un premier temps travaillé dur pour racheter cette simple bourde en ne ménageant pas ses efforts pour se donner l'air d'un policier consciencieux. Ses bottes, sa ceinture et ses boutons étaient toujours lustrés. Sa posture était droite, sa voix ferme, son registre impeccablement tenu et son langage, lorsqu'il informait les délinquants de ce qu'on leur reprochait, était clair. En moins de 2 ans, il avait redressé Kaskadoo et sa présence lors des vendredis de paye particulièrement agités suffisait à calmer le vacarme de Main Street. Un simple regard de sa part encourageait n'importe quel homme se rendant à la romerie à donner l'argent qu'il devait à la mère de ses enfants, venu l'attendre devant le bar avant que celui-ci ou le tripot ne le lui arrache. Et sa voix était suffisamment forte et sévère pour ordonner aux plus enthousiastes des contrevenants de se rendre au poste de police et de rester assis en attendant qu'il ait décidé quel chef d'accusation retenir contre lui. Mais quand l'agent Aguilera se rendit compte que ses bonnes actions n'étaient pas récompensées et que des agents avec moins d'ancienneté que lui et qui était loin d'avoir autant d'arrestations à leur actif, était promu avant lui, une certaine rancœur commença à le ronger. Pendant 2 ans et demi, il fit des folies de son corps, but du rhum, joua et profita des faveurs de femmes qui, devant son uniforme impeccable, la droiture de sa posture, sa fière allure et la puissance qui émanait de lui, tombaient toutes comme des mouches. Il finit par avoir une petite amie dans presque chaque village de son secteur et il en engrossa 2 en même temps. Il finit par s'amender quelque peu lorsque, 6 mois après la naissance des 2 bébés, la mère de l'un d'eux l'amena au poste de police, le lui laissa et tourna les talons. Il confia le bébé à sa propre mère, freina l'alcool et tâcha de rester maître de lui-même lorsqu'il voyait passer une belle femme. Toutefois, l'injustice de l'administration lui restait en travers de la gorge et il persista dans son refus d'arrêter qui que ce soit. Des gars usés d'un langage ordurier à portée de son oreille, des chauffeurs de taxi se garaient en double file et de nombreux incidents éclataient dans son champ de vision. Sur Main Street, 2 petites frappes, Grosse Tête et Marvel, se lancèrent dans une bagarre au poing qui commença devant le tripot et se termina devant la romerie où il était assis à boire. Les gens cherchaient à éviter des jets de cailloux et de bouteilles. Toute la rue fut en proie au désordre pendant au moins 1h15. Mais l'agent Aguilera restait campé sur sa résolution de ne pas procéder à une seule arrestation tant que justice ne lui serait pas rendue. Or, donc, ce dimanche, quand il leva ses yeux du registre du poste de police, ce fut avec un certain soulagement de ne pas avoir trouvé le nom de Sonny Boy. Mais comme le grommellement déçu des soutiens de Sonny Boy et le bourdonnement de jubilation de ceux de derrière parvenaient à ses oreilles, il avisa Sonny Boy que s'il voulait être sûr de son statut, il fallait qu'il aille dans la savane, où il trouverait le brigadier commandant du poste de police en train d'assister au match de cricket, ou bien il pouvait s'asseoir et attendre des fois que l'inspecteur en charge de toute l'affaire du Black Power passe et puisse déterminer si oui ou non il devait être arrêté. Ou bien, tu pourrais rentrer chez toi. Sonny Boy se souvient d'avoir souri. Même la police faisait de son mieux pour ne pas voir qui il était. Il décida d'attendre.
Donc c'est un premier couple de tragicomédie, le couple du brigadier qui n'arrête pas avec le brigand qui veut être arrêté. Donc le brigand qui veut être arrêté pour son honneur, bien sûr, et au contraire le policier qui n'arrête personne parce que lui aussi, son honneur a été bafoué dans la mesure où on ne lui a pas assuré de promotion. Il a décidé qu'il n'arrêterait plus personne et donc pas question d'arrêter Sonny Boy. Mais patience.
Je l'ai retrouvé assis sur le banc de la salle des accusés, alors qu'on nous faisait entrer, moi et 2 frères de lutte, Ibo et Marvin, qui, pas de chance pour nous, avions été appréhendés à un barrage routier sur Toko Road, tandis que nous progressions vers les collines du village isolé de Kumaka. Dès que je me suis assis, Sonny Boy a engagé la conversation, feignant une familiarité que nous n'avions pas, et il a continué à me parler pendant toute la demi-heure, qu'il a fallu aux 3 militaires pour se pointer et nous emmener, Ibo, Marvin et moi, en détention à Nelson Island. Comme il nous faisait signe, mes 2 frères et à moi-même, de nous lever et de les suivre, Sonny Boy, tout en me parlant, se mit debout, comme s'il était l'un d'entre nous, et chemina calmement vers la jeep de l'armée qui nous attendait. Quand nous allions monter dans la jeep, les photographes qui attendaient à l'extérieur du poste de police pour pouvoir prendre un cliché des détenus du Black Power, comme on nous appelait, braquèrent leurs objectifs sur nous. Mes traits étaient tirés par l'inquiétude. Je détournais la tête pour me donner l'air nonchalant. La vraie raison, cependant, c'était que je ne voulais pas qu'il y ait dans le journal une photo sur laquelle moi, un révolutionnaire, j'aurais eu l'air si épuisé. Mais Sonny Boy, un demi-sourire aux lèvres, se redressa, leva son poing droit serré au-dessus de sa tête, et dans une attitude de dignité et avec une joie bien légitime, cria « Le pouvoir au peuple !» en un salut si vibrant que je lançai moi-même ma main droite en l'air, poing fermé, en criant « Power !» En me retournant, je vis que mes camarades avaient fait pareil. Je ne connaissais pas Sonny Boy si bien que ça. Je savais que c'était une petite frappe, un homme qui s'attirait régulièrement des ennuis avec les autorités. Je l'avais aperçu à 1 ou 2 rassemblements du Black Power à Port d'Espagne Et lorsque je le vis au poste de police, j'en conclus qu'il était l'un des nôtres, un détenu. Mais plus tard, quand j'appris son histoire, je fus heureux que ma présence ce jour-là ait pu lui permettre de sauver la face devant sa grand-mère et ses frères et d'être, pour la première fois de sa vie, placé sous la responsabilité de la police, non pas comme un criminel de droit commun, mais comme le combattant de la liberté qu'il se savait être.
Sonny Boy est donc devenu, sur sa demande, pourrait-on dire, un combattant de la liberté. Et la vie suit son cours. Les militants du Black Power finiront par être relâchés. La mode musicale a évolué, le producteur de cinéma qui arrive des États-Unis veut réaliser un film à Trinidad et peu à peu, les anciens militants du Black Power vont devenir des figurants de ce film. Donc il s'agit de réaliser un film à Trinidad, juste un film.
Tout de suite après le carnaval, un gars d'Amérique se pointe ici à Trinité. Il raconte qu'il va tourner des films sur l'île. Grosse annonce, plein d'articles. Première page. Il va monter l'industrie du cinéma. Grande parole. Le talent local marié à la technologie étrangère. Enfin, toutes les conneries qu'on peut entendre. Mais avec l'aide du gouvernement et du milieu des affaires, le film est sur les rails. Ils font des auditions. Je me prépare à y aller. Et en tant que célèbre compositeur et chanteur de calypso, un vrai calypsonien, pas juste un type qui chante les chansons des autres, je ne m'attends à aucun problème. Je vais leur montrer. Laisse tomber le calypso, je vais être une star de cinéma. Je vais donc aux Caraïbes, où ils choisissent les gens pour les rôles. Stanley, Errol, Claude, Wilbert, Ralph, les types qui jouent avec le théâtre Workshop, ils sont tous là. Des types des strolling players, des gens du best village, le talent, le gars d'Amérique, il a ses gens, l'industrie étrangère, il les a amenés avec lui. Tous, ils nous font passer un bout d'essai, l'audition. Faut réciter un extrait d'œuvre littéraire. Ralph fait quelque chose de Hamlet. Le gros discours, être ou ne pas être. Errol fait quelque chose de Dream on Monkey Mountain de Derek Walcott, le grand discours de macaque. Messieurs, j'ai 60 ans d'âge, j'ai vécu toute la vie à me cacher comme une bête sauvage. Et moi, je leur fais un bout de mon discours du voleur de minuit. Mon nom est Kankala, artisan de la confusion, greffier de ragots, démolisseur de réputation, révélateur de secrets. Je suis sous la même peau, vilain et héros, victime et victorieux. Je réduis les puissants par le ridicule. Je leur révèle leurs absurdités par la parodie. Je réduis leur signification à néant et donne du sens au sens. Je suis Dame Lorraine, caricaturant le grotesque des méchants, la difformité des imbéciles, la cochonnerie de la gloutonnerie. Merveilleux, dit le réalisateur, vous avez du talent, les gars. Du talent, oui. Donc, ils me choisissent. Donc, j'ai le rôle. Le rôle qu'ils me donnent, le même que celui qu'ils donnent aux locaux, c'est un rôle à mourir, le talent local. Notre rôle, c'est de mourir. Les autres, ils les amènent d'Amérique. C'est des stars. C'est eux qui ont des mots à dire, des vies à vivre dans le film, bien sûr. Même si, à lire ce que les journaux ont à en dire, on jurerait que je suis en haut de l'affiche. Un calypsonien du cru joue dans un film étranger. Oui. Et maintenant, quand je marche sur la route, les gens me regardent. Le film, l'acteur, me montrant du doigt pour leurs amis. Des femmes qui ne me parlent jamais me font des signes. Elles changent de chemin pour venir me demander un autographe. Des femmes gentilles. La star locale de cinéma, moi. Donc j'obtiens ce boulot, mourir. Un genre de film dans la jungle, avec dedans une rivière et une piste et un pont de cordes et une histoire d'amour et des indigènes avec des coiffes de plumes colorées, leurs splendides corps nus à l'exception de jupes en herbe et qui portent les paquets de buanas dans la montagne. Et ils ont des ânes. Je veux dire, nous avons des ânes. Parmi nous, certains posent le chargement sur leur tête. Autour de nous, l'ennemi, une autre tribu en guerre, dans la brousse, rampant sur le ventre, tirant avec une adresse redoutable. Ils te tirent dessus et tu es censé tomber. Ces tireurs ne manquent jamais leur coup, le scénario. Quand on est petit garçon et qu'on joue aux gendarmes et aux voleurs, le tireur rate au moins quelques fois avant de faire mouche. Ça fait partie des conventions du jeu. Le tireur tire, tu tombes ou tu esquives les balles et tu prends la fuite. Et comme ce n'est pas la réalité, comme c'est fait pour faire semblant, c'est à toi de confirmer son adresse au tir en acceptant d'être blessé ou tué. Il y a une certaine latitude, une certaine sagesse, comme dans la fiction, basée sur l'idée que la vie donne une chance à chacun, qui satisfait tout le monde, que tu sois celui sur qui on tire ou celui qui tire. Le tireur doit rater un certain nombre de fois, vu que c'est plutôt fatal quand il fait mouche. Mais ici, dans le film, les gars qui tirent, ils n'en ratent pas un. Les seuls qu'ils ratent, c'est les gars des States, les stars. Leurs vies sont enchantées, dit Errol dans un sourire, en parlant des stars. Leurs vies sont enchantées. Errol est un acteur qui a observé à distance la rébellion de 1970. Il ressent fortement les choses. La vie le blesse et le ravit si souvent. Il est inquiet, stupéfait, indigné, et pour lui c'est assez. Je veux dire, il ne ressent pas le besoin d'aller au-delà des sentiments, de passer à l'action. Son boulot, c'est de ressentir, de témoigner avec son cœur. Il apparaît moins comme une figure morale supérieure que comme un baromètre émotionnel. Voilà qu'il venait de placer la douleur un niveau au-dessus. Ses mots sonnent comme de la poésie. Son rire est une douleur suraiguë. Leurs vies sont enchantées. Me v'là au-dessus du ravin, sur un pont de corde, blam, 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 des tirs tout autour. Des types qui tombent, sauf les types des States. Tout autour de moi, des types tombent, à gauche, à droite, blap, 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 comme des mouches. C'est quand les indigènes tombent dans un film de Tarzan. C'est comme quand les indigènes tombent dans un film de Tarzan. Les gens tirent et ils tombent, ils tombent. Ils s'écroulent morts comme ça, puis je suis touchée. Même dans un film, je veux pas mourir sur un pont de corde avec le paquet d'un boana sur le dos. Mais c'est le scénario. Il te tire dessus, tu dois mourir. C'est ce qu'il me paie pour faire, mourir. Je suis touchée. Je me tiens l'épaule, blessée, et je fonce pour traverser le pont et blâme, il tire de nouveau et je commence à tomber. Je dois tomber. Mais quelque chose me retient. Ma conscience, ma fierté. Il y a quelque chose qui ne va pas et je regarde dans la direction de Stanley et Errol, tous les autres, pour choper un signe, savoir comment mourir, vu qu'ils ont de l'expérience en tant qu'acteurs, de vrais acteurs. Mais Stanley et Errol, tous en fait, tous ces types, des hommes bien, de bons acteurs, ils tombent sans chichi et meurent juste comme ça. Et moi, en pleine confusion, je les regarde tomber et je me demande comment un acteur, un homme comme Errol, peut tomber comme ça. Mais attendez, je dis, quand je comprends ce qui est en train de se passer. Attendez, 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 c'est quoi ça? Et l'espace d'un instant, je suis partagée. Je ne veux pas voler la volette à Errol et à Stanley et aux autres. Mais en même temps, il y a une voix dans ma tête qui hurle. Non, 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 je ne tombe pas comme ça. Je ne peux pas les suivre. Je ne crève pas comme ça. Non, mec, non. Même quand j'étais gamin et que je jouais aux gendarmes et aux voleurs et que me faisais tirer dessus, je composais ma mort comme un poème. Il y avait de la poésie dans la mort. Quand je suis touchée et que je commence à mourir, j'entends la musique du film, je me retourne vers les balles, mes genoux flanchent, mes mains se tendent et je m'accroche au dernier petit morceau de ce monde, le ciel, l'air, mes yeux ouverts que j'emplis de la merveille des arbres, des oiseaux qui chantent sous leurs auvents de branches, de la clameur des femmes sur le marché, du bruit des enfants sur le terrain de jeu, des gens qui se querellent, des amants qui se déshabillent l'un l'autre. Je me mets à danser, je sens le sang de la vie quitter mon crâne, j'inspire, le parfum des goyaves, mûres, se transforme en celui des feuilles de corailli écrasées. J'entends le dernier roulement de tambour, le fracas des cymbales, les lumières qui baissent, les vagues qui se brisent sur le rivage, le bond argenté des poissons. C'était comme ça quand j'étais un petit garçon et que je jouais. Mourir était une performance. J'étais au centre de ma propre mort. À présent, je suis ici, adulte, dans un vrai film, et je meurs comme un con, comme un idiot. Et je me vois, en fait, commencer à tomber, imitant les gestes de gars que je respectais. Je me vois en train de tomber quand dans un coin de mon champ de vision, j'aperçois cet homme, un des gars, un de nos gars, se faire tirer dessus. Et ce type-là balance ses bras en l'air comme si le tir le soulevait de terre. Et il les tient écartés là, au-dessus de sa tête, comme un escrimeur, stoppé dans son élan par une parade. et il titube, les écarte encore plus loin de son corps, comme crucifié, et comme si c'était carnaval et qu'il incarnait un grand personnage de mât, un grand hurrah d'indien sauvage, l'ascension de Montezuma ou quelque chose comme ça, avec un tipi en guise de coiffe, les pompons sur les manches de sa veste, suspendus comme un rideau de fougère, sa cape s'étalant derrière lui, la musique gueulant, dardard, 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 et lui, en face du public dans la savane, qui lutte pour garder sa coiffe sur la tête, bien droite pour qu'elle ne bascule pas. Il est resté comme ça en équilibre une éternité, puis il s'agenouille lentement, les mains sur le cœur, le sang se vidant de sa poitrine, les yeux tournés vers le sol avec ce regard qu'ont sur les peintures de Colomb et Cortés et tous ces conquistadors, alors qu'ils sont sur le point de baiser la terre qu'ils viennent de découvrir, de conquérir et de revendiquer au nom d'Isabelle, la reine d'Espagne. Mais les yeux de ce gars-là ne sont pas un océan d'arrogance. Ils n'expriment ni avidité ni grandiloquence. Dans ses yeux, il y a la piété, la stupeur, la pitié, comme si à peine après avoir découvert la terre, la vie, il devait la quitter. Je l'ai applaudi. C'est de cette mort que j'aurais voulu mourir. Cet homme mourant si magnifiquement, l'auteur de cette mort extravagante et magnifique, c'était Sonny Boy. Inspiré, je balance mes bras, moi aussi, dans les beaux mouvements de la danse de mon enfance et je commence l'exquise chorégraphie de ma mort. Coupez, dit le réalisateur, coupez, parce que le réalisateur n'aime pas du tout comment nous mourons. Il n'aime pas ça. Et même les autres gars, les mêmes gars, mes gars, qui ont vécu une enfance comme la mienne et qui devraient savoir, qui doivent savoir les conventions du jeu, ces mêmes types exactement nous regardent, moi et Sonny Boy, comme si on commettait une sorte de crime. La qualité de notre mort leur fait honte. On meurt trop lentement. On gaspille trop le temps des blancs. Et des types de Trinité, mes compatriotes, pas le moindre soutien. J'ai essayé de leur parler. Écoutez les gars, j'ai dit, Stanley, Errol, Claude, Ralph, Davindra, vous savez plus qui vous êtes ? Vous faites partie des meilleurs acteurs du monde. Vous avez au moins mérité votre mort. Laissez pas ce bouffon vous traiter comme ça. C'est juste un film, dit Errol. Et comme pour nous éloigner du pathos, de la douleur de la phrase, je la répète, cette fois avec un demi-rire pour nous donner la direction à prendre. C'est juste un film. Et il fallait écouter, au-delà du gloussement de son rire, la terrible angoisse qui bouillonnait dans sa voix, la tristesse, le chagrin, la vérité, les larmes d'une rage étouffée. Juste un film. Rassemblons-nous, j'ai imploré, et vivons le dernier instant de cette vie avec un peu de dignité. Il ne peut pas tous nous virer. C'est juste un fil, répond-il en cœur, quelque part entre la sévérité disciplinaire d'un parent et la récitation bétifiante d'enfants sur une scène d'école. Max est le réalisateur. C'est le patron, fait le cœur. Le patron, c'est Max, dit Errol avec ce double, ce triple sens. Et vous, je demande, vous êtes qui ?
Vous êtes qui ? Superbe question. Superbe question à ces jeunes Caraïbes. Face à l'hydre américaine, qui sont-ils en effet ? Où est leur place ? Comment peuvent-ils être reconnus ? La domination néocolonialiste des États-Unis, est-ce que c'est juste un film ? Avant de continuer la vie de ces personnages, encore un peu de musique, encore un peu de Calypso.
Calypsonians are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen on a paper, but they report it in the song. Working for the Yankee dollar. Trinidad like a paradise. Rum and Coca-Cola, Golden Point, Kumana, both mothers and daughter, working for the Yankee dollar, working for the Yankee dollar, working for the Yankee dollar. Chica, chica, singing rum and Coca-Cola, Golden Point, Kumana, both mothers and daughter, working for the Yankee dollar.
Eh oui, comme dit la chanson « Working for the Yankee Dollar ». Calypso Rose, comme Kinkala dans le roman de Earl Lovelace, souligne bien la dépendance des îles de la Caraïbe par rapport aux grands frères états-uniens et à ses dollars. Kinkala, dans le roman, poursuit sa galerie de portraits à travers un long retour en arrière sur la vie de Sonny Boy. On rejoint de nombreux personnages et dans un petit moment, on rejoint en particulier Lance, le fabricant de steel drum, ces tambours de métal au son si particulier et tout à fait typique des Caraïbes.
Le steel drum, le steel pan, la casserole. Lance a une casserole en carbure, assez grande pour sonner, assez grande pour émettre deux notes, puis trois. À midi, tous les lundis et mardis, il se rendait au wagon vide de la gare pour taper le bœuf avec les types de l'abattoir. Chacun frappait en rythme sur sa propre casserole ou faisait sortir de son propre bout de métal l'esprit, l'esprit réjouissant et retentissant. Un jour, Lance oublie sa casserole dans le wagon. Quand il la récupère deux jours plus tard, il se rend compte à son aspect et au son qu'elle fait que quelqu'un l'a frappée au point de complètement la déformer et la désaccorder, et qu'elle ne lui rend pas le son habituel quand il tape dessus. Le voilà prêt à tuer. Grâce à Dieu, Lance ne retrouve pas l'homme qui a commis cette brutalité sur sa casserole. Merci Jésus. Elle avait observé Lance rentrer à la maison avec cette casserole meurtrie, blessée, et se mettre à la marteler pour lui redonner sa forme afin de retrouver les notes perdues du rythme. Après des jours à l'entendre frapper et frapper encore, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? T'arriveras pas à ce qu'elle sonne comme avant, tu sais ?»«
Je sais. »«
Tu sais ? Alors qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et c'est là qu'avant qu'il puisse répondre que ça l'avait frappé. En martelant sa casserole pour retrouver la note perdue, Lance s'était mis à entendre une note qu'il n'avait pas encore émis le moindre son. Et ce qu'il cherchait à faire en cet instant, c'était non pas obtenir la note qu'il avait perdue, mais la note qui se planquait derrière cette note, une note sans son, sacrée, surprenante et pleine de potentiel, cette note, il cherchait à la faire sonner. Voilà que Lance est en transe. Lance, le sculpteur sur fer. Lance, qui rentre plutôt du travail pour travailler sur sa casserole, inquiet que celle-ci éclate à force de recevoir des coups. Lance allume un feu et il fait chauffer la casserole, et quand le métal est chaud et ramolli, il fait surgir la note, pas encore la note, rien qu'une petite bosse au dos de la poêle, une bosse qu'il agrandit petit à petit, puis une autre bosse, et chaque bosse est une note, un son. Et Sonny Boy et elle regardent toute l'opération. Lance qui martèle, qui frappe et qui déforme le métal, en formant les notes à la surface de cette casserole, en resserrant l'espace entre elles ou en l'élargissant, en aplatissant ou en approfondissant, chaque bosse pour que la note corresponde au son qu'il a dans la tête, dans son cœur, dans ses tripes, dans ses burnes. Lanz, qui envisage un tout nouvel univers de son, qui emporte la musique des percussions encore plus haut, sur un autre plan. Lanz, qui recommence tout le processus, encore et encore, pour faire sortir cette musique nouvelle et audacieuse de son tambour. Et pendant tout ce temps, sa mère à elle et ceux des voisins, qui comprennent le problème dont elle est spectatrice, tous font migrer leur regard de Lanz, lui plein de tendresse et de patience envers la casserole, vers elle, pour comprendre ce qu'elle fait avec cet homme. Et elle peut les entendre penser, s'il avait avec toi la patience qu'il a avec cette casserole, s'il avait avec ses enfants, avec le travail, la patience qu'il a avec cette casserole. Elle faisait de son mieux pour le soutenir, elle voulait l'aider. Mais ils avaient raison, elle ne pouvait pas ignorer sa tendresse et sa patience envers cette casserole, et les mêmes paroles s'envolaient de son esprit pour trouver sa voix. Si tu avais avec moi la patience que tu as avec cette casserole, si tu avais avec le travail, avec tes enfants, la détermination que tu as avec cette casserole, si tu avais. Et même si au fond de ses tripes, elle comprenait la valeur de ce que Lanz était en train de faire, dans sa tête, ce qu'elle voulait de lui, c'était une explication afin d'aider sa mère à elle et tout le monde à comprendre ce qu'une femme comme elle faisait avec cet homme-là. Mais Lanz n'avait pas les mots pour répondre, et au lieu de rester assis à se sentir petit et coupable, ou de s'efforcer de trouver les mots pour la consoler, à chaque fois qu'elle s'y mettait, qu'elle commençait à parler, il se levait et il partait vers le terrain vague de l'autre côté de la rue, et il s'asseyait sur le rocher en dessous du manguier, où une assemblée croissante d'oisifs l'encourageait dans son voyage au cœur de la casserole. Quand elle le regardait, l'homme qu'elle avait devant les yeux n'était pas celui qu'elle avait connu. Cela ne s'était parti, cet homme-là, lui, était tout esprit. Il était Ogun, dieu des forgerons. Je cherche la page 57, voilà. Et Sonny Boy entend les notes s'envoler comme des nuées d'oiseaux depuis le nid de Steel Pan, comme une fontaine de shillings jetés en l'air, comme un cœur d'enfant récitant une prière. Il les entend encore, comme un vol de papillons pris dans une danse grouillante, anguleuse et précise comme des couteaux d'acier affûtés, douce comme la pluie tombant sur un toit galvanisé, comme des libellules trempant leur queue dans l'eau d'une mare, les premières notes de Steel Pan de toute la création. Et sa mère lui serre fort la main et reste plantée là, à regarder, comme si cet homme, son père, était un étranger qu'elle voyait pour la première fois. Après qu'il eut joué cette mélodie, les gens se soulevèrent de sa pierre et le portèrent dans les airs, et quand ils le reposèrent, ils placèrent le Steel Pan entre ses mains. Et comme si l'assemblée n'attendait que cette occasion, les gars prirent leurs tambours, certains d'entre eux sortirent des morceaux de fer, d'autres des couvercles de poubelle, et tout ce qui pouvait sonner, qui pouvait teinter, ils sortirent dans la rue et redescendirent la colline, et tout le monde les suivit.
Donc ce Lanz, le père de Sonny Boy, il est comme un messie entraînant derrière lui les foules. Et d'ailleurs, la police ne s'y trompe pas. Il y a bien sûr les militants du Black Power, mais il y a aussi ceux qui entraînent les foules derrière eux. On ne sait jamais trop comment ni pourquoi. Et c'est lui, Lanz, et non pas Sonny Boy, que la police va tenter d'arrêter. Et en fait, Lanz ne devra son salut qu'à sa Steel Pan, sa casserole. Il se cachera derrière elle, dans le soubassement d'une maison, lorsque la police se rapprochera de lui. Donc Lanz, c'est un personnage un petit peu mythique, comme d'autres personnages présentés par Kinkala, qui sont eux aussi au cœur de véritables petites nouvelles, qui sont comme des histoires autonomes, insérées dans le roman, et qui ouvrent des fenêtres sur des aspects particuliers de la vie à Trinidad. Par exemple, à un autre moment, on va rencontrer Rouplal, l'homme hobby, mais peut-être simplement un genre d'escroc à la petite semaine.
Rouplal s'installa à Cascadou, dans une petite maison non loin de l'école catholique, et il vivait du jeu et des consultations qu'il donnait aux femmes en détresse qui le sollicitaient pour des problèmes amoureux, débarquant en un flot ininterrompu chez lui pour des bains d'herbe et des philtres d'amour, Les femmes parlaient de lui en murmurant, sa notoriété grandissait parmi elles, comme celle d'un homme hobby, un séducteur, dont aucune d'entre elles ne pouvait résister au charme magique, et les jeunes types de la ville le tenaient comme une autorité en matière de femmes, de politique, de jeux d'argent et de problèmes raciaux. Rupal était de sang mêlé africain et indien, cette heureuse commodité le faisant accepter dans chaque camp, lui permettant d'accabler d'insultes les membres des deux groupes avec une vulgarité qu'il ne tolérait de personne d'autre, aucune des parties en présence ne pouvant l'accuser de racisme puisqu'il partageait son héritage avec les deux. Dans son cas, les deux sens annulaient, comme des poissons rivaux et destructeurs, aussi puissants l'un que l'autre, dont la seule vertu était d'avoir produit un rejeton qui était acceptable par les deux camps et qui ne pouvait être revendiqué par aucun des deux. Sous son influence, Sonny Boy raconta une nouvelle fois l'histoire avec son père, mais alors que dans les premières versions il attribuait la responsabilité de l'incident à parts égales au peuple et à la police, désormais, encouragé par Rupal, il la faisait porter uniquement sur le peuple. Il s'avéra par ailleurs que Rupal était un tailleur assez réputé, mais qu'il avait dû abandonner sa machine à coudre à cause des circonstances de son départ précipité de Navet. Grâce à une gestion judicieuse de ses fonds, Marissa veillait à ce qu'il paye les traites d'une nouvelle machine à coudre et faisait de son mieux pour l'encourager à arrêter les consultations aux billes et le jeu. Il travailla comme tailleur pendant un temps, mais il ne pouvait pas rester longtemps assis dans ce qui lui tenait lieu des shops alors qu'on battait les cartes en ville. Et il finit par passer le plus clair de son temps à jouer et le reste à éviter les gars qui venaient le chercher pour récupérer les habits qu'il lui avait déjà payés.
Rupal, donc, un de ces nombreux personnages qui fait une petite histoire, un petit tour et puis s'en va, comme on dit, dans la grande fresque que nous présente Sonny Boy et que nous présente aussi King Kala à travers Sonny Boy. Donc, on retrouve Sonny Boy ensuite pour le carnaval. Le carnaval, c'est le plus grand événement de l'année à Trinidad, et le carnaval de Trinidad, c'est le plus grand carnaval du monde après celui de Rio.
Pour le carnaval, Sonny Boy alla directement à Port d'Espagne rejoindre son frère Alvin et d'autres parents qui, quel que soit l'endroit d'où ils venaient sur l'île, savaient se retrouver dans le steel band Tokyo, tous autant qu'ils étaient, tout le clan Aparicio, les anciens tenant à bout de bras des morceaux d'arbustes, les jeunes remuant des mouchoirs, et les rues de la ville étaient à eux pendant cette période unique de l'année. Aussi n'avaient-ils peur de rien, personne ne pouvait les atteindre quand ils étaient dans le groupe. Les gens devaient s'écarter sur leur passage. Sonny Boy lui-même était avec la section rythmique, l'assemblée des gros musclés, là pour assurer le tempo et soutenir le rythme, les gardiens et la force du groupe, équipé d'un instrument qui avait le poids d'une arme à employer en cas de grabuge. Mais il n'était plus question de se battre pour l'instant. Leur mission consistait à donner vie à la musique, à faire chanter le rythme, à attirer les gens vers le festival de l'esprit, vers l'orisha, le dieu de la danse, vers la consolation provocante de la chanson, afin qu'ils sachent que la pauvreté n'était pas assez forte pour les écraser, que rien ne pouvait submerger la fraîcheur de leur capacité de résistance, rien ne pouvait engloutir le monument de leur esprit ou renverser la cathédrale de leurs rêves. Oncle Georges, l'onctueux, le roi de la sape, plus âgé à présent, avec ce qui lui restait de cheveux toujours aussi noirs, toujours plaqués en arrière, toujours nets, avec deux femmes habillées et maquillées de manière tapageuse accrochées à lui, mais pas désespéré, comme autant d'avant, davantage pour le soutenir. Egbert, l'oncle de Sonny Boy, celui qui avait essayé de devenir calypsonien, la chemise ouverte sur son torse, porté, vivant d'un soldat blessé, vêtu d'une veste militaire, la tête bandée, manifestant sa réaction au caractère indiciblement poignant de l'occasion, en buvant à l'excès et en cherchant à se battre, moins pour infliger de la douleur, en fait, que pour éveiller l'intérêt d'un autre être humain, pour laisser sortir cette chose qu'il ne pouvait pas exprimer, cet amour qu'il cherchait le moyen de donner, finissant par se calmer comme un enfant, s'écroulant comme un morceau de caoutchouc, étreignant ceux avec lesquels il voulait se battre un instant auparavant. Sonny Boy observait cette pantomime de chagrin et de nostalgie, tandis qu'Egbert avançait en chancelant, les bras passés autour des épaules des deux hommes qui le portaient, ne sachant pas quoi faire de lui-même, désirant affronter le monde entier, le combattre, que le monde sache qu'il avait mal, que quelque chose lui manquait. Sonny Boy retenait ses larmes, son morceau de métal dans les bras, et jetant son regard vers un autre oncle, lui tapait sur le fer à côté de lui. Bruce, un homme grand et fort que Sonny Boy avait vu une fois se baigner près d'une colonne humide, après s'être savonné la peau, il avait soulevé une bassine d'eau et s'était versé sur le corps pour se rincer. Bruce avait à présent le fer coincé sous le menton, comme s'il jouait d'un violon, sauf qu'au lieu de scier l'instrument, il tapait dessus. Les bras repliés et luisants, le devant de la chemise trempé de sueur, la musique dans la tête, dans les oreilles, dans le ventre, dans les burnes, et Bruce, lui aussi, regardait vers lui, frappant le fer avec une détermination toute fraîche pour le défier et l'encourager à taper comme lui avec une intensité nouvelle, en contrepoint de ses frappes. Sonny Boy mobilisant ses muscles pour cet effort, les sentant réagir, le métal sonnant de plus belle, clatac, clatac, clataquant, d'une bénédiction nouvelle et triomphante. Et derrière eux, dans le groupe, les gens flottaient sur leur danse apaisante et enthousiaste, et comprenaient chaque triomphe, chaque déception, chaque douleur. Un type à l'élégance loufoque et efféminée du roi marin traversant la rue en moonwalk, une obscénité sucrée ponctuait la sobre poésie du défi lancé au monde par son oncle Egbert. « Viens te battre, viens te battre !» en ouvrant les bras et en montrant les casseroles, la musique, la danse. « Viens te battre, viens te battre !» Il voulait un ennemi à combattre. Il cherchait un frère à étreindre. Car ce matin-là, il pouvait voler. Aucune armée n'aurait pu le battre, aucune force le plaquer au sol. « Viens te battre !» Et ses amis venaient le serrer dans leurs bras et l'étreindre, et il comprenait les larmes et la rage et l'orgueil. « Viens te battre !» Et le maintenant debout, ils avançaient, serrés les uns contre les autres, les bras autour des épaules et les mains autour de leur taille, et lui, Sonny Boy, frappant sur le fer, clacatang, clacatang, toujours en train de taper dessus, lorsque quelqu'un lui colla le goulot d'une bouteille de rhum contre les lèvres, et il jeta alors sa tête en arrière et but 2-3 gorgées, tenant le rythme pour le groupe, et à côté de lui, son oncle Bruce, le fer coincé sous le menton, balang, 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 et tout le reste était oublié. Voilà ce que c'était que le carnaval de Sonny Boy.
Le carnaval de Sonny Boy et le carnaval en général, c'est un petit peu comme au début, la tragédie, la comédie, la tragédie, tous les sentiments mêlés, la fierté, la tradition, mais aussi la vie pour le calypso, la vie pour la danse, la vie pour ces images de Trinidad qu'on retrouve tout au long du livre. Et on va continuer à suivre la trajectoire de Sonny Boy. Peu à peu, il rencontre davantage de monde, il discute avec plus d'assurance et il en vient à rejoindre les marches du Black Power et à s'assimiler au message du Black Power pour la révolte et justement la fierté de la population noire. Il ira même jusqu'à la case prison, mais il en tirera des leçons.
Sonny Boy,
justement la fierté de la population noire. Il ira même jusqu'à la case prison, mais il en tirera des leçons.
Sonny Boy se sentait naître. Il avait l'impression que ses bras étaient davantage siens à présent, qu'il y avait des choses à faire. Il expliqua à Big Ansel qu'il devait arrêter les annonces, qu'il devait avancer. Et comme dans son esprit, il se voyait soldat, il se mit à penser à la lutte comme à quelque chose qui devait opposer le muscle au muscle. Il convainquit les gens du Black Power de ses capacités de combattant. Ils en firent le garde du corps de l'un des dirigeants. Ils l'équipèrent d'une paire de jumelles pour lui permettre de rapprocher les objets lointains et il déambulait de sa marche de roi marin, les bras croisés sur sa poitrine et le visage plus sérieux que celui de n'importe qui. Il était l'un des types les plus voyants du groupe. Mais il s'en fichait. Il faisait partie d'une armée invincible, d'une nouvelle histoire en marche. Il observait les camions de la police qui traînaient derrière eux, tandis qu'ils marchaient sur San Juan, Maraval, Cascadou, Cuba. Il regardait les soldats hocher la tête au son déflagrateur des discours, et il avait les bras croisés ou les jumelles plaquées contre les yeux, cherchant parmi la foule, mais quoi, il ne le savait pas très bien. Et il finit par être arrêté avec ses camarades quand s'essouffle le mouvement du Black Power. Avant sa détention à Nelson Island, Sonny Boy avait déjà été en prison. Pas pour vol, mais parce qu'il avait découpé des gens en morceaux suite à un désaccord sur une propriété foncière ou parce qu'il avait participé à un gros trafic ou fraudé le fisc. Il avait été en prison parce qu'il s'était battu, parce qu'il s'était défendu contre le manque de respect terrifiant d'un monde prêt à affamer et à étouffer l'opprimé. Oui, il avait été en prison parce qu'il s'était battu, dans la rue, dans le tripot, où il avait fracassé une bouteille sur la tête de Marvel, et d'accord, deux, trois gars avaient tâté de sa lame. Mais là, avec les détenus politiques, tandis qu'il écoutait les dirigeants du Black Power, qui se racontaient leurs anecdotes et échangeaient des idées de Franz Fanon, Malcolm X, Stokely Carmichael et Walter Rodney sur l'enracinement de la violence dans la situation coloniale, il réalisa que son « putain, y a pas moyen » ne différait en rien des gueulantes en faveur du Black Power. Il commençait à comprendre que sa rébellion vécue lui avait conféré une place qui n'était pas du tout inférieure à celle que nous avions revendiquée pour nous-mêmes. Il se considérait comme un révolutionnaire au même titre que nous. Mais même là, nous n'étions pas nombreux à partager l'idée qu'il se faisait de lui-même. Moi-même, je ne l'avais pas vraiment calculé, jusqu'au jour où il dit quelque chose qui me fit le voir autrement. Il était assis juste au-dessus de la plage et regardait la mer en contrebas. On avait discuté du mouvement, des steel bands et de la différence entre rébellion et révolution. Il dit « Tu sais, ici, c'est la première fois que je fais vraiment de la prison. Cette détention-là, comme prisonnier politique, c'est la première fois qu'ils me mettent en prison parce que j'ai fait quelque chose. Les autres fois, c'était des bêtises. Se battre avec Marvel, couper un gars, des bêtises. » J'en ai pris note, mais sans rien dire. Ça ne m'a pas empêché de constater qu'il avait saisi sa chance de se présenter sur un pied d'égalité avec nous. C'est nous qui étions les révolutionnaires, et quand bien même nous étions disposés à lui donner un rôle dans la révolution, le fait qu'il était une petite frappe ne le qualifiait pas vraiment en tant que révolutionnaire. Quand notre période d'incarcération fut terminée, on s'est dit au revoir. Les gars s'en retournaient à leurs jobs divers et variés. Certains étaient professeurs, d'autres fonctionnaires, certains à l'université. Sonny Boy eut des envies d'aventure. Il n'avait pas le sentiment d'être arrivé à une fin, mais au contraire, de commencer.
Donc Sonny Boy commence, entre guillemets, une autre aventure. Dans le roman, c'est beaucoup d'autres personnages qui apparaissent, dont les histoires sont traitées peu à peu, avec chaque fois des images, des petites anecdotes ou au contraire des vrais messages. Et donc, pour Sonny Boy, pour Franklin, pour d'autres, on va continuer à rencontrer au fil des pages les personnages de « C'est juste un film ». Alors, « C'est juste un film », est-ce que c'est juste l'histoire de Trinidad ? Est-ce que c'est notre histoire à tous ? Ou l'auteur nous laisse conclure nous-mêmes ? Et nous allons conclure avec lui, avec encore quelques notes de Calypso.
People are interested to know where Calypso originated. People are interested to know where Calypso originated. Some say it came from Cuba, some said British Guiana. Some contend seriously it was sung by Moses crossing the Red Sea. But I told them no, no, oh no, Trinidad is the land of Calypso. No, no, oh no, Trinidad is the land of Calypso. It was a serious contention that was causing some real confusion. Some said it's Japanese or the folk song of ancient Chinese. A fellow said he is certain Delilah used to sing Calypso to Samson. One said he heard when Nero was burning Rome he sung Calypso. But I told him no, no, oh no,
that is the land of Calypso.
No, no, oh no.
Trinidad is the land of Calypso. That in India they sung Calypso and Charming Cobra. Another said that Elijah sung a Calypso in the Chariot of Fire. They argued with one another, trying to find out the owner. They mention every country, all but the land of La Trinity. But I told them,
no, no, oh no.
Trinidad is the land of Calypso.
No, no, oh no.
Trinidad is the land of Calypso.
A song that comes from Tanzania.